Bonjour à toutes et tous, je vous souhaite une excellente année. Bienvenue sur le podcast de Moodstep, où nous allons traiter sûrement pour la dernière fois des intelligences au travail. Et oui, un grand vent de changement a soufflé dans ma vie et le podcast va évoluer. Je vous fais un petit message personnel à suivre pour ne pas polluer cet épisode qui sera donc le dernier de cette série avec Janie Duquette qui est au Québec, qui est québécoise, et nous allons parler du leadership féminin. Nous la retrouvons tout de suite. Ok, super.
Bonjour.
Bonjour Janie. Bienvenue, tu traverses l'océan à travers les ondes pour venir jusqu'à nous en France.
Oui, à Montréal, un peu en banlieue de Montréal en fait.
Ah. Aujourd'hui, nous allons parler de leadership féminin, que les hommes ne s'enfuient pas tout de suite, parce que je pense que ça nous concerne tous en fait. Avant qu'on aborde ce sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire quel a été ton parcours?
J'en suis à ma troisième vie. Je dis souvent ça, je suis avocate de formation. J'ai pratiqué un peu dans les grands cabinets à Montréal jusqu'au jour où un grand promoteur de concert ici à Montréal, qui était comme une espèce de bonze du show business, téléphone au cabinet parce qu'il voulait faire l'acquisition des droits sur un groupe de musique. Et il venait de laisser la promotion de concert, puis il se concentrait plus sur ses compagnies musicales, donc de production musicale et de production de concert. Et là, il me téléphone pour avoir les droits sur ce groupe-là. On a réglé le dossier en un mois. C'était un groupe qui s'appelait La Chicane. C'était un nom approprié, disons. Après ce dossier-là, du haut de mes 28 ans, il m'a demandé si je voulais être PDG de ces entreprises. J'avais une formation donc d'avocate. Je sortais d'un endroit très hiérarchisé, discipliné. J'avais une certaine rigueur. Je pense que c'est ça qu'il avait apprécié. Mais il avait apprécié aussi que j'étais à l'aise dans le domaine de la musique parce que moi, pendant toutes mes études, que ce soit au cégep, bon, vous n'avez pas l'équivalent, là, c'est peut-être le lycée pour vous, je ne sais pas, mais au cégep et à l'université, mon boulot pour payer mes études, moi, je travaillais dans un endroit où il y avait des concerts de musique. Je travaillais comme en arrière du bar, là, et donc j'étais à l'aise dans ce milieu-là parce que je connaissais déjà le langage, disons. Parce que jeune avocate qui devient productrice avec des musiciens, des techniciens, toute une autre philosophie que de ce qui se passe dans un bureau d'avocat. Disons que mon parcours dans les bars m'a aidée. Alors, j'ai été productrice, donc musicale. La Chicane, c'était mon premier dossier. J'ai travaillé avec d'autres artistes très connus chez vous. J'ai signé Corneille. Que vous connaissez. Donc, Corneille, ouais. Ça a été une de nos premières aventures qui a traversé l'océan. Et donc, Corneille, c'est un succès fulgurant. Et j'ai aussi tenté de faire l'inverse, c'est-à-dire de prendre une artiste française puis de la faire connaître aux Québécois. Et ça n'a pas fonctionné pour plusieurs raisons, mais ce n'est pas parce qu'elle n'avait pas de talent. Au contraire, c'est Nolwenn Leroy. Ah, et je l'adore.
Ah, une bretonne.
C'est toujours une amie aujourd'hui. c'était difficile, notre marché est super petit. Puis avec les quotas francophones, c'était très difficile pour les artistes français, tu sais, d'avoir le même impact que peut-être dans les années 70 ou 80. En tout cas, on a essayé avec Nolwenn. Elle est venue plusieurs fois ici. Nos artistes l'adoraient. Le milieu l'adorait parce que c'est une fille extraordinaire avec un grand talent. Mais avec le public, puis les radios, il faut se le dire, là, ça a été plus difficile. Alors c'est ça. Donc, j'ai fait ça pendant 15 ans. 15 ans en cours de parcours. Moi, il y a une chose que j'ai remarquée. C'est qu'on n'était pas beaucoup de femmes dans le milieu, mais quand on prenait le temps de se retrouver entre nous et de ne serait-ce que passer une heure ou deux heures à discuter ensemble et de partager ce qu'on vivait au jour le jour, on se le disait souvent, c'était mieux que deux heures de thérapie. Ouais, et c'était vraiment, on se rendait compte qu'on ne vivait pas les mêmes réalités que nos collègues, que que certaines, on avait trouvé certaines astuces, notre façon de gérer, que ce soit nos artistes ou nos entreprises, était très différente. Alors, j'apprenais beaucoup de mes consoeurs, mais on n'avait malheureusement pas assez d'occasion de se voir. Alors, je voulais provoquer ça. Alors, c'est ce qui a provoqué ma troisième vie, parce que je suis allée rencontrer le directeur du groupe Les Affaires ici au Canada, qui est un grand groupe là, de médias, et pour lui suggérer de créer des grands rassemblements féminins. Parce que je disais qu'on avait besoin de se parler entre nous. Moi, j'avais une formation d'avocate, mais je n'avais pas une formation de gestionnaire. Et je voulais en apprendre plus sur la gestion au féminin, parce que moi, j'ai une intelligence de terrain, disons, mais je n'ai pas étudié ces notions-là. Alors, j'avais envie d'en savoir plus. Et là, je me souviens parce que lui, il me dit, il m'avait demandé à l'époque, oui, mais est-ce que c'est si différent que ça? Tu sais, être un leader quand on est une femme, quand on est un homme. J'étais partie à rire, je dis, ben voyons donc. En québécois, on dit, parle-moi pas, en voulant dire, pose-moi pas la question, je vais t'en parler pendant des jours. Alors, le temps d'un lunch, je lui avais donné un paquet d'anecdotes, tu sais, de terrain, là, où j'avais réalisé que, bon, il fallait faire les choses différemment et que c'était avantageux de faire les choses différemment aussi. Et quand j'ai eu terminé, il m'a dit, écoute, supposons que j'en organise là, des événements féminins. Là, il me dit, qui va venir parler aux femmes? Ça prend des conférencières. Puis là, je dis, ben, il doit y avoir des universitaires qui ont cherché sur le sujet. Tu sais, moi, je m'imagine, je n'ai pas fait les hautes études commerciales, donc je m'imagine que les universités sont remplies de spécialistes. Et là, il me dit, ben, écoute, moi, j'ai un background en édition puis en gestion, puis tout ce que tu viens de me raconter, tu devrais vraiment mettre ça dans un livre. Alors, moi, je dis souvent, c'est le conseil qui a changé ma vie, parce qu'on se fait souvent donner des conseils, mais ça ne veut pas dire qu'on va toujours les suivre. Mais celui-là ne m'a pas quitté tant que je ne l'ai pas exécuté. Alors, j'ai décidé de me pencher sur le leadership féminin, j'ai décidé de me poser des questions, j'ai surtout réalisé, tu sais, en cours de recherche, bon, parce que je suis quand même assez rigoureuse, tu sais, en cours de mes recherches, que j'ai réalisé que le leadership féminin, ça avait été, dans mon cas, un atout. Mais que cet atout-là, je ne m'en étais pas assez servie. Alors, je me suis dit, voyons, je ne peux pas écrire sur le leadership féminin si je n'améliore pas d'abord le mien. Alors, j'ai décidé de devenir un meilleur leader féminin. Puis comme il n'y en avait pas de livre sur la question à l'époque, bien, j'ai inventé une méthode intuitivement, là. Et j'ai décidé de booster mes qualités féminines en me disant que ça allait faire de moi une meilleure manager. Mais ce qui est arrivé en cours de route, ce que je pensais qui allait seulement améliorer ma vie d'entrepreneur ou de manager a littéralement transformé ma vie de femme aussi. Et ça a été un cadeau extraordinaire que j'avais pas vu venir. Alors, je me suis dit, tu sais, cette fameuse quête d'équilibre qu'on a toutes les femmes et qu'on trouve difficile parce que le marché du travail n'a pas été conçu pour nous. Hein? Au départ, tu sais, le marché du travail a été pensé et conçu par et pour les hommes. Donc, ça tend à s'améliorer, mais il y a beaucoup de choses à changer. Mais j'ai réalisé que en devenant une meilleure version féminine de moi-même, ma vie allait être beaucoup plus facile. Facile parce qu'en étant ce que je suis vraiment, là, premièrement, je pense que je contribue plus au marché du travail. Je travaille mieux avec mes collègues masculins parce que nos forces s'allient. Et avec mes collègues féminines aussi. Moi, j'ai toujours vécu une forte solidarité féminine. Moi, j'y ai goûté au beau côté de la solidarité féminine. Alors, ça m'a permis de la prôner puis de la continuer. Mais bref, tout ça pour dire que quand j'ai réalisé tout ça, qui est un processus qui m'a pris un peu plus de temps que je pensais, j'ai vraiment eu l'intime conviction que les femmes, en se laissant le droit d'être des femmes, avaient vraiment le pouvoir de changer le monde. Et ça, je ne pouvais pas m'arrêter sans prendre le temps d'aller le dire à toutes les femmes, le plus grand nombre de femmes possible. Alors voilà.
On parle aujourd'hui beaucoup du féminisme, il y a beaucoup d'actions, il y a eu tout le mouvement MeToo, donc il y a pas mal de réflexions là-dessus. Je vais aborder le sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as dit sur lesquelles j'aimerais rebondir, mais je vais aborder le sujet par son côté obscur. Est-ce que en parlant du leadership féminin, on ne crée pas plus de ségrégation et d'opposition?
Tout dépend de la manière. Parce que moi, je suis féministe, mais je ne suis pas une féministe de combat. Je pense que maintenant que la forêt a été abattue par les pionnières, et oui, à l'époque, elles ont été obligées de le faire d'une certaine façon. Moi, je pense que maintenant, c'est dans l'alliance et la complémentarité qu'on va trouver les meilleures solutions. Moi, je pense que les hommes sont nos alliés. Et moi, je suis très, très sensible au fait que c'est en tendant la main qu'on va changer les choses et non pas en abordant le sujet dans la confrontation.
Tu parles des qualités féminines. Qu'est-ce que tu vois comme qualités qui sont...
Alors là, je dois dire d'emblée que j'ai fait des choix. J'ai fait des choix instinctifs et des choix qui sont issus de mon expérience de terrain. Maintenant, ce sujet-là, cette question même-là, je me promène dans... Je fais énormément de conférences, je participe à des panels, à plusieurs événements, et je pourrais dire que c'est une des questions qui polarise le plus encore. Qu'est-ce qui est féminin? Si vous voulez voir des débats enflammés, là, partez de cette question-là en plein milieu d'une salle remplie et ça va mal finir. Et il y a encore donc une sensibilité pour ça. Il faut donc faire attention aux sensibilités, je pense. Alors moi, j'ai fait des choix que j'assume, mais que je ne prétends pas être l'absolue vérité. C'est un choix que je propose, c'est une proposition. Alors, parce qu'il y a énormément de débats encore, que ce soit chez les scientifiques, les psychologues, les différentes approches, les behavioristes pensent d'une certaine façon, Mais bref, ce que j'ai pu comprendre, là, c'est qu'en gros, le féminin, c'est avoir le sens de l'autre. Alors que le masculin, c'est le sens du soi, et c'est pour ça qu'on fait une excellente équipe ensemble. Donc, ça, c'est ma prémisse. Les 7 clés que j'ai choisies quand j'ai écrit les 7 clés du leadership féminin, j'ai choisi l'authenticité. L'authenticité qui, pour moi, est une valeur du leadership féminin parce qu'il faut être féminine. Moi, j'ai exercé mon métier déguisé en homme pendant longtemps et ça ne m'a pas servi, je pense. Et je pense que je suis devenue une bien meilleure gestionnaire à partir du moment où je me suis permis d'être moi-même. Donc c'est pour ça que je parle d'authenticité. Deuxième chose, je parle d'empathie. Parce que oui, ce sens de l'autre-là, on l'a beaucoup, nous les femmes. Je ne dis pas que les hommes ne l'ont pas. Là, le féminin, c'est une polarisation, c'est un pôle. Enfin, les plus grands...
Non. Oui, c'est pas homme-femme, c'est féminin, masculin. Et
exact.
On a
chacun
féminin,
les plus masculin. Grands gestionnaires d'entreprise que j'ai rencontrés, c'est des hommes qui avaient un côté féminin très développé. Donc, un sens, tu sais. Donc, empathie, créativité, bonté, partage, paix et intuition sont les 7 clés que j'ai choisi de développer quand j'ai décidé d'améliorer mon leadership féminin.
C'est marrant parce que quand on étudie un peu le chamanisme, quand on va dans d'autres cultures, le féminin est quelque chose de contraire qui peut être parce que relié à... Le masculin est ce qui met en ordre et le féminin est ce qui est relié à la terre, presque à la violence, presque à quelque chose de sur lequel on ne met pas de mots.
C'est presque mystique, mais en fait, moi, je pense que si on veut aller un petit peu plus dans le spirituel, je pense que le féminin, c'est ce qui réunit. C'est ce qui réunit, c'est ce qui peut réunir les choses ensemble, alors que le masculin, la force, le soleil, c'est ce qui fait grandir. Mais si le féminin n'est pas là pour tout tenir ensemble, comme la terre, par exemple, ça ne tient pas non plus.
Quand on pense donc à ces 7 clés du leadership, Tu as dit que c'était un atout. En quoi c'est un atout? Et aussi, j'aimerais que dans ta réponse, on voit, est-ce que c'est un atout dans les systèmes tels qu'ils sont construits aujourd'hui, que ce soit l'entreprise, l'État, c'est-à-dire les structures étatiques? On voit qu'il y a peu de femmes, et là je ne suis pas dans le féminin masculin, mais bien dans les femmes qui peut-être portent les valeurs dont tu parles. Voilà, est-ce que ces valeurs-là ont le moyen de briller dans le système dans lequel on vit?
Dans la mesure où on est consciente du fait que notre vision, la vision au féminin, c'est une ressource naturelle qui n'a pas encore été exploitée. Alors, à partir du moment où on sait ça, les idées, la créativité, notre façon de percevoir les choses et de recevoir les choses, c'est un potentiel d'innovation. Ça, peu importe dans quelle industrie on est. Moi, j'ai eu beaucoup de succès en affaires parce que j'ai fait les choses différemment. Parce que j'ai eu l'occasion de faire les choses avec ma propre vision d'une façon. Parce que j'ai été nommée PDG si jeune, j'ai eu le pouvoir de faire les choses à ma manière. Si vous saviez le nombre de fois où je me suis fait dire « Mais voyons, Janie, ça ne s'est jamais fait comme ça. » Ben on essaye, on le fait. Et ce qu'on faisait devenait innovant. Ce qu'on faisait devenait surprenant. Donc, si on ne va pas chercher cette vision-là, ce potentiel féminin-là au sein de notre entreprise, on se prive d'une intelligence de marché importante. À partir du moment où on sait que les femmes contrôlent 90 % du portefeuille de consommation, dans la mesure où on est dans la business de la vente de produits de consommation puis qu'on n'a pas de femmes en haute direction, je trouve qu'on se prive d'énormément de talent. Alors, il me semble que, et ça, c'est prouvé maintenant, on a besoin de s'allier ensemble parce que nos forces sont complémentaires. La parité, c'est bon pour la performance des entreprises. En Angleterre, ils sont très avancés là-dessus. Et il y a beaucoup de... Là, j'ai commencé, moi aussi, à intervenir auprès des entreprises qui veulent... Ils veulent vraiment avancer vers la parité parce qu'ils sont conscients que la performance de l'entreprise en dépend. Parce que cette vision-là est importante. Puis, c'est juste pour mieux compléter le tableau. C'est pas parce qu'on fait les choses mieux que les hommes. C'est parce qu'ensemble, on est plus complet.
Ce leadership féminin, à quoi il ressemble? En quoi il est différent d'un leadership masculin?
Mais c'est qu'on ne peut pas faire les choses de la même façon. Encore une fois, c'est une question de manière de faire. Donc, tu sais, vous savez, tout le mouvement Lean In, là, je ne sais pas si ça a eu des répercussions chez vous, là, mais la numéro 2 de Facebook qui a écrit un livre qui s'appelle Lean In, en avant tout, je pense, le titre français, et où elle dit, bon, beaucoup, il y a un mouvement ici qui s'appelle l'EFEA au Québec, bon, c'est pour l'ambition féminine, puis c'est pour que les femmes prennent leur place, défoncent le plafond de verre, tout ça. C'est bien beau tout ça, là, mais ça, moi, je l'ai fait. OK? Donc, j'ai suivi, moi, toutes ces directives-là. Et première chose que les femmes doivent savoir, et qu'elles savent, que bien des femmes savent, c'est que de prendre notre place et de dire les choses haut et fort, ça a un prix quand on est une femme. C'est-à-dire que la minute où on va le faire, ça va venir à même. Mais pour qui elle se prend, elle? Et ça, c'est immédiat. Le leadership, quand ça vient d'une femme, c'est encore perçu de façon péjorative. Les doubles standards existent encore. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Sauf qu'il y a des façons de le contourner. Alors oui, on peut pas faire la même chose que les hommes parce qu'on n'a pas les mêmes obstacles. Tu sais, nous, à partir du moment où on fait certaines choses, il y a des obstacles qui vont arriver et que si on les ignore, si on se dit « Ah, moi, je suis pareil qu'un homme », ben c'est pas vrai. Ton parcours sera pas pareil que celui de monsieur. Parce que toi, tu as quelques limites par-ci, tu as quelques obstacles par-là que ton collègue n'a pas. Par contre, tu as des avantages que lui n'a pas non plus. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire là-dessus. Je vais vous raconter une anecdote qui pour moi illustre un peu un de ces avantages-là que j'ai eu l'occasion d'avoir. C'est ma rencontre avec Corneille. J'ai rencontré Corneille, moi, dans le cadre d'un téléthon. Et un Téléthon au Québec, c'est un grand spectacle où tous les artistes du Québec sont là pendant comme 48 heures, et ils chantent, on ramasse des fonds pour une grande cause. Et donc, on va là avec tous nos artistes, puis on attend. Il y a beaucoup de temps d'attente. Et c'est là que j'ai rencontré Corneille et son gérant pour la première fois. Et on avait passé des heures et des heures à attendre, puis à parler de musique, d'un peu de tout et de rien. Puis, tu sais, on voyait que... Tu sais, je voyais que Corneille n'était pas connu du tout ici au Québec encore, mais je voyais déjà que c'est quelqu'un qui avait des qualités humaines particulière, tu sais, il y avait vraiment quelque chose de spécial. En tout cas, mon intuition était là. Et donc, je à l'époque, Corneille était en contrat avec un autre producteur. Alors moi, j'ai pas posé de geste après cette rencontre-là. Mais quelques semaines après, son gérant m'a téléphoné puis il m'a dit, écoute, Janie, peut-être que notre producteur accepterait de vendre le contrat. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit oui, c'est certain que ça m'intéresse. Alors, il dit, bien, je peux organiser une rencontre. Il organise une rencontre, et là, au moment où il me dit ça, moi, je suis à Rimouski, sur la route avec un autre artiste. Je suis à 6 heures de Montréal, puis là, je me dis, mon Dieu, il faudrait que j'écoute son album. Oui, j'y ai dit que j'étais intéressée, mais je n'ai pas écouté l'album. Alors, je vais écouter son album, je l'écoute sur la route pendant 6 heures, je suis convaincue qu'il y a des tubes là-dessus, je fais mon plan d'affaires, je choisis les chansons, j'arrive à Montréal, et... J'ai bougé vite, là. J'ai fait une proposition au producteur, puis on a fait l'acquisition des droits. Tout ça s'est fait très rapidement. Et la journée, la signature du contrat, je me souviens, Corneille avait un spectacle au Francofolie de Montréal. Puis Francofolie de Montréal, c'est une belle plateforme pour un artiste qui débute. Bon, il n'était pas connu ici encore. Et là, j'ai eu comme un remords de dernière minute. Je me suis dit, mais voyons, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comme, pourquoi j'ai commencé à regretter? Et là, je venais de signer le plus gros chèque de ma jeune carrière de productrice. Et là, j'ai été prise de remords en me disant, mais voyons, Janie, je ne l'ai jamais vue en show. Je ne l'ai jamais vue sur une scène. Je me suis dit, mais c'est épouvantable. On ne peut pas signer un artiste qu'on n'a jamais vu sur une scène. Je vous explique pourquoi. C'est parce qu'il y a des gens qui sont très bons à chanter en studio, mais qui ne peuvent pas tenir la route sur la scène parce qu'après 4, 5, 6 chansons, ils n'ont plus de voix. Tu sais, c'est olympique un peu, hein, faire des spectacles pendant 90 minutes par soir, qui est la carte de visite d'un artiste. C'est quelque chose qui est essentiel, mais qui est quand même assez rare. Alors, moi, je me dis, mais voyons, donc d'un coup, qui chante comme une patate, excusez-moi l'expression. Mais et là, je commence à me faire des scénarios. Je me dis tout d'un coup qu'il bouge mal. Tu sais, j'ai dit, quand j'étais allée au Téléthon, j'aurais pas pu aller le voir chanter. Ben non, je suis restée en arrière avec tout le monde. Je suis même pas allée le voir chanter. Là, j'ai commencé à avoir des remords, des regrets, bon, tout ça. Et là, j'arrive au Francofolie. Il y a 15 000 personnes devant la scène. Il chante incroyablement bien. Il bouge super bien. C'est l'apothéose. Bon. Je pense bien que ça va être la consécration, mais l'histoire ne se termine pas là. Alors là, le concert finit et je fais comme tous les producteurs après le concert dans leur poulain. Je m'en vais derrière la scène, je m'en vais backstage pour aller le voir, féliciter son équipe, féliciter les musiciens, tout ça. Et là, j'arrive à l'arrière et je vois tous mes collègues compétiteurs qui sont là backstage. Ils disent « Corneille, Corneille, ça a l'air que ton deal est à vendre. Corneille, là, ils sont tous là qui sont prêts à faire une offre pour le contrat parce qu'eux avaient attendu le spectacle avant de bouger. » Et alors que moi, sur la base de mon intuition, puis surtout sur tout ce que je savais, j'ai fait mon offre bien avant. Et là, donc, Corneille de répondre à tous ces légendes de producteurs-là. On s'entend qu'à l'époque, s'il avait fait une offre contre moi, j'avais pas de chance. T'sais, j'étais une jeune compagnie. Là, j'avais les grands producteurs, des Isabelle Boulay qui étaient là, qui étaient prêtes à faire une offre. Puis lui, il aurait répondu, bien, trop tard, j'ai fait le deal avec Janie. Et on s'entend que si j'avais pas fait ça si vite avec ma vision... Hein, parce que moi, j'étais le futur public de Corneille, de toute façon. Tu sais, toutes ces légendes du show business-là d'une cinquantaine d'années qui étaient toutes des hommes n'avaient pas vu le produit, on va l'appeler comme ça pour le bénéfice de la discussion, hein, mais n'avaient pas vu le potentiel de Corneille. Il a fallu qu'ils attendent de voir si ça allait marcher avec la foule, alors que moi, je le savais. Et ça, c'est un avantage que j'ai eu. J'ai pu, tu sais, j'aurais jamais pu conclure cette entente-là, je pense, si j'avais pas été une fille, si j'avais pas été l'âge que j'avais aussi. Tu sais, le fait que je représentais le public qui allait acheter les CD que j'allais produire dans les prochaines années m'a donné un énorme avantage.
Ça, tu penses que c'est lié au fait que tu sois une femme, donc cette intuition, tu veux dire?
Ouais, cette intuition-là, cette perception-là aussi, tu sais, ne serait-ce que de choisir un projet, tu sais, de le voir avant les autres. Moi, je me souviens, avant d'être, tu sais, j'ai été nommée PDG d'une portion d'entreprise, mais j'étais vice-présidente d'une autre portion. Et dans l'autre portion, on avait souvent des désaccords par rapport aux artistes qu'on allait choisir de mettre sous contrat. Il y en a beaucoup que je disais, ça marchera pas. Tu sais, du fait que j'avais peut-être pas l'expérience, l'expertise, tout ça, on m'écoutait pas. Mais quand j'ai pu prendre mes propres décisions, tu sais, j'ai eu 4 artistes en ligne qui ont été multiplatines ici au Québec. Ça s'était jamais vu à l'époque. Alors, puis moi, je pense que le fait que je sois une femme m'a beaucoup aidée dans la façon de les présenter aussi, la façon de les présenter au public par la créativité. Tu sais, je pouvais mettre une touche de créativité là-dedans. Il y a des choses qu'on faisait en relation publique qui ne s'étaient jamais faites. Tu sais, transformer une industrie avec une vision plus féminine, toutes les femmes sont capables de faire ça.
Si tu attribues ces qualités au côté féminin, est-ce qu'il n'y a pas un avantage, parce que c'est justement une structure ou un système qui n'a pas laissé encore émerger ces valeurs? Donc aujourd'hui, c'est un avantage compétitif, ou en tout cas, ça semble avoir été dans ta vie.
Non,
mais ça ne le sera peut-être plus demain s'il y a plus d'équilibre dans ces...
Oui, bien, en ce moment, les femmes ont un avantage. Et c'est pour ça que je me dépêche à leur dire, pour qu'on puisse en profiter. Parce qu'il y a plein de... Tu sais, il y a un potentiel d'innovation au niveau des entreprises puis de l'entrepreneuriat en ce moment que les femmes pourraient saisir. Mais il y a pas juste les femmes qui ont du féminin, il y a des hommes aussi. Puis en ce moment, tu sais, je participe beaucoup comme juge à des concours d'entrepreneuriat. Et je suis déçue souvent de voir qu'il y a des nouvelles business qui se créent qui auraient dû être créées par des femmes. Tu sais, c'est des idées qui viennent de choses que les femmes connaissent, qui font depuis des années, ne serait-ce que tout ce qui est en train de remplacer la femme à la maison. Tu sais, toutes les industries, non, mais c'est vrai, parce que ça crée un besoin. Comme la femme n'a pas le temps d'être à la maison parce qu'elle vit encore dans une structure qui commande aux travailleurs moyens de donner beaucoup à leur travail. Donc, la maison est laissée pour compte. Bon, mais tout ce qui vient pallier à ce que les femmes avaient le temps de faire à la maison avant, mais ici, en tout cas, particulièrement au Québec, il y a énormément d'entreprises qui sont en train de se créer et qui sont en train de prospérer, ne serait-ce que pour faire le ménage. Hein? Des entreprises de faire le... Comment on dit ça pour que... Nous autres, on dit faire le ménage, mais de l'entretien ménager. C'est ça?
Les deux, je comprends les deux.
Alors,
en tout cas.
Toutes les business d'entretien ménager, toutes les business de conciergerie maison, tout ce qui vient pallier à ce que les femmes n'ont plus le temps de faire, en ce moment, c'est des business qui pourraient être pris par les femmes. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Mais il y a énormément de potentiel d'innovation qui vient des femmes en ce moment. Donc, oui, c'est important pour elle de le saisir. Est-ce que c'est un avantage temporaire? Peut-être, parce que moi, je pense que nos collègues masculins ont aussi ce potentiel-là. Mais moi, ce que je pense, c'est si on est un homme, de s'allier à des femmes qui ont des idées, je trouve que c'est le move intelligent à faire en ce moment en affaires. Parce que c'est ensemble. T'sais. Moi, j'étais toute seule à la tête de mon entreprise et j'aurais beaucoup aimé avoir un collègue masculin. Pourquoi il faut être un à la tête? Pourquoi on ne peut pas être deux? T'sais, moi, je trouve que la meilleure équipe au monde, c'est un homme et une femme qui travaillent ensemble à leur plein potentiel. Je n'ai pas toutes les forces. Quand je devais me déguiser en homme, c'était pas quelque chose de ni agréable pour moi, ni agréable pour les autres. Et j'aurais aimé pouvoir compter sur l'appui d'un collègue masculin. Mais tu vois, les structures, ils n'étaient pas faits comme ça encore.
Et encore, elles vont encore évoluer. Et ça se trouve, il n'y aura même plus de tête bientôt.
Ah, peut-être. Oui, effectivement, ça va devenait collaboratif. Bon, on réinvente hein, le monde du travail, puis c'est tant mieux. Et dans cette réinvention-là, ben, il faut tenir compte des valeurs au féminin. Et aussi, moi, je pense que si les femmes mettent de l'avant leurs limites, parce que tu sais, il y a des limites pour les femmes sur le marché du travail. Moi, je suis tannée d'entendre dire qu'aux femmes, faites-en plus, changez pour vous adapter au milieu du travail. C'est l'inverse qui doit se faire. C'est le marché du travail qui doit s'adapter aux travailleurs moyens qui, selon moi, devraient avoir autant de temps pour aimer que pour travailler. Alors, et ça, ça n'a pas été pris en considération et je pense que ça va le devenir. Ça va devenir important parce que pour les milléniaux, c'est important. Et je pense que pour les femmes, c'est important, mais c'est important pour les hommes aussi. Et si on améliore le marché du travail, ça va être payant pour tous.
Je me pose des questions depuis longtemps parce que j'ai observé beaucoup ce mouvement MeToo. Je viens de coacher une artiste afghane féministe, donc ça m'a fait beaucoup cogiter sur ces questions. Souvent, je me demande, est-ce que c'est une question d'homme-femme ou de valeurs féminines, masculines ? Aujourd'hui, ce que je vois, c'est aussi les abus de pouvoir. Et donc, je m'interroge par le même coup sur comment les femmes, parce que les femmes ne sont pas souvent en position de pouvoir. Quand elles sont en position de pouvoir, elles ont souvent traversé tout un système qui a été mis en place par des hommes, en effet, en utilisant certaines valeurs, certaines règles auxquelles elles se sont pliées. Donc elles se sont transformées par ce parcours. Ouais. Et je me demandais si les femmes, avec les valeurs que tu as décrites, comme l'authenticité, l'empathie, la créativité, la bonté, la paix, l'intuition, voilà, les sept clés que tu as données tout à l'heure, quel en est le côté sombre si les femmes étaient en position de pouvoir, peut-être supérieures aux hommes, mais je pense que ces positions de pouvoir se retrouvent un peu partout. Hein, ça peut être toutes les différences, en fait. Dès qu'il y a une différence, voilà, il y en a une dessous, une au-dessus. Bon. Quel est le côté sombre? Quel pourrait être le côté sombre de ce leadership féminin?
Moi, là où je me suis beaucoup trompée, je me suis beaucoup trompée dans l'embauche du talent masculin au niveau des employés. Je ne savais pas bien reconnaître les forces de mes collègues masculins parce qu'on se connaît bien soi, mais tu sais, dans le domaine musical, bon, moi, je n'avais pas les ressources pour avoir quelqu'un aux ressources humaines. Donc, tu sais, je reconnaissais très bien le talent féminin. Ça, c'est une des choses dont je suis le plus fière, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes femmes que j'ai engagées qui aujourd'hui ont des grands postes là, dans le show business ou même dans le milieu des affaires ici au Québec. Donc ça, c'est quelque chose qui me... Mais je me suis trompée souvent, je savais mal reconnaître les forces et c'est pour ça que je me dis que, tu sais, on se reconnaît mieux... Dans nos similarités, tu sais. Alors moi, j'étais très, très bonne pour construire des équipes de filles, mais peut-être moins pour le choix de mes employés masculins. Mais un autre des périls, je dirais, moi, justement, le petit côté empathique qu'on peut avoir, au niveau de la gestion, là, il faut être des fois un peu plus détaché. Un peu plus détaché par rapport à ses employés, j'avais la compréhension facile, ça a probablement miné le moral des troupes parce qu'il y avait des éléments perturbateurs, tiens, pour dire comme ça. Tu sais, on veut être aimé, on a de la difficulté avec la discipline. Ça, c'est vrai, là. Ça, c'est vrai, puis c'est des choses que... C'est des choses qu'on doit améliorer, en tout cas que moi, j'ai travaillé pour améliorer, pour être une meilleure leader aussi. Il ne faut pas tomber dans l'exagération de l'autre côté non plus.
Et pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de ce podcast, est-ce que tu voudrais nous donner quelques conseils ou donner quelques conseils aux femmes pour exprimer pleinement leur leadership?
Oui, je vous donnerai un lien aussi par après parce que j'ai des choses qui sont disponibles sur le web si elles veulent aller chercher. Mais première chose, je dirais qu'en étant consciente du fait qu'on a un avantage féminin, et il faut savoir qu'on a le potentiel d'être un agent de changement. Et qui dit changement, dit résistance. Donc, c'est clair qu'une femme qui va avoir une nouvelle vision, qui va vouloir faire des changements, va rencontrer de la résistance et donc des critiques. Et le meilleur conseil que je peux donner aux femmes dans ces circonstances-là, c'est de s'allier. S'allier avec les hommes, mais s'allier entre femmes aussi. Donc, arrêter de nourrir les critiques du leader féminin. Parce qu'une femme qui veut faire des changements, c'est peut-être quelqu'un qui veut faire quelque chose de correct. Tu sais, qu'on critique les femmes, c'est comme un sport national. Il faut que ça arrête, puis il faut d'abord que ça arrête par nous. Donc, il faut se soutenir entre nous. Donc, maintenant, moi, je me fais un devoir d'honneur comme les deux féminines. Si jamais j'entends des critiques vis-à-vis d'une autre femme qui est en situation de pouvoir, et ça arrive souvent, je vais présumer qu'elle est en train de faire quelque chose de bien. Et juste cette solidarité-là peut littéralement transformer notre atmosphère de travail, nos équipes, ne serait-ce que d'avoir cette présomption-là qu'on a besoin du féminin. On a besoin des femmes, on a besoin de leur vision en alliance avec les hommes. Donc, favoriser les alliances puis la solidarité. Si j'ai un seul conseil à donner, c'est celui-là.
C'est vrai que dans ma vie, j'ai vu tellement de situations où les femmes... Bâcher, c'est un mot anglais, mais les femmes presque enfonçaient les autres femmes. Et j'ai eu la sensation plusieurs fois, je me suis dit, en fait, le pire ennemi de la femme, c'est la femme.
C'est la femme parce qu'elle l'a appris, ça, inconsciemment. C'est une femme qui...
Oui, mais et puis elle perpétue certaines choses qui sont d'ailleurs des violences contre les femmes. Certaines femmes sont capables de perpétuer des violences faites aux femmes. Mais après, c'est aussi la force du conditionnement, du conformisme, de plein de choses qui se jouent. Mais c'est dans des situations où on est plus libre, je suis toujours assez sidérée de voir comment les femmes peuvent détruire d'autres femmes.
C'est pour ça qu'il faut dépersonnaliser la chose. C'est-à-dire que déjà, de pas embarquer là-dedans. Tu sais, moi, quand j'ai une femme devant moi qui, clairement, elle me le dit pas, là, mais c'est écrit dans son front, elle me regarde en disant « Mais pour qui elle se prend, elle? » Je sais qu'elle va me causer du souci, là. Alors, je sais que c'est une femme qui a énormément souffert. Je sais que c'est une femme qui s'est énormément fait dire, probablement, pour qui tu te prends, toi, qui s'est fait écraser. J'essaie d'avoir de la compassion pour cette femme-là et je passe à un autre appel. Donc, c'est-à-dire que je change de partenaire potentiel, que ce soit en affaires ou tout ça. Maintenant, on a fait un profil psychologique des femmes, justement, sur le marché du travail. Et oui, elle existe, cette femme-là, qui est toute seule parmi les hommes et qui écrase les autres qui essaient de monter. Parce qu'elle, elle a beaucoup souffert et elle se dit, moi, je vais les faire. Si elles veulent monter, il va falloir qu'elles souffrent comme moi. Ce n'est pas la bonne attitude à avoir, mais ces femmes-là, elles existent, oui. Maintenant, on a un choix à faire, tu sais. On choisit de ne pas, quand on peut, en tout cas, de ne pas avoir de relations d'affaires avec ces gens-là, et ou sinon à essayer d'avoir de la compassion. Moi, en tout cas, je me dis, j'ai pas le temps de convertir. Il y a d'autres femmes qui, elles... Non, mais il y a d'autres femmes qui, elles, disent, non, il faut prendre le temps de les convertir parce qu'après, ça devient nos meilleurs alliés, puis c'est vrai.
Je te propose maintenant de passer au questionnaire qui est commun à toutes les interviews avec la première question. J'aimerais que tu me racontes une histoire et l'histoire d'un échec qui t'a énormément fait progresser.
Lequel choisir? Lequel choisir? Je dirais que on parlait tantôt de vouloir faire des changements. Puis tout ça. Moi, quand je suis entrée en poste, mon enjeu, ça n'a pas été d'accéder au pouvoir, mais mon enjeu, c'était de le garder. Et donc, après 2 ans en fonction, où j'essayais justement de changer des choses, d'imposer de la discipline, j'étais pas très, très populaire. Et auprès des employés, auprès des autres gestionnaires, tout ça, parce que je voulais mettre un frein aux dépenses, mettre de la structure, etc. Bref, ils m'ont congédiée. J'ai été congédiée, moi, je suis rentrée en poste à 28 ans, puis à 30 ans, le vice-président annonçait qu'il me congédiait. Et pour moi, c'était un échec épouvantable parce que ça faisait des années que je rêvais de show business, là. Sur le coup, quand il me l'a dit, je ne pouvais pas y croire parce que je me disais, voyons, je savais que dans le groupe, il y avait des entités qui avaient des difficultés financières, mais ce n'était pas celles que je dirigeais. Et au contraire, moi, je pense que j'essayais de limiter les dégâts, Mais c'est ce qui avait créé de la tension au sein du groupe. C'est moi qui en ai copé. Manifestement, j'avais pas vu le coup venir et j'avais pas pu me préparer. Sauf que j'ai demandé un week-end. Ça m'était annoncé un vendredi. Et j'ai demandé 48 heures pour rencontrer le chairman, le propriétaire, donc celui qui m'avait donné mon emploi, qui avait probablement dit oui là, à ce qu'on m'avait annoncé. Et là, je l'ai rencontré devant le péril. Là. Pour faire une longue histoire courte, je suis devenue entrepreneur à cause de ça. Je m'étais préparée à un long combat avec le chef des autres divisions pour démontrer au grand patron que moi, j'avais pris les bonnes décisions, tout ça. Mais au lieu de faire tout ça, je suis arrivée dans son bureau et j'ai dit « Écoute, j'aimerais que tu m'expliques comment, on va le résumer simplement en disant il y a deux compagnies, celle que je dirige va super bien, celle que je dirige en deuxième, comme numéro deux, va pas bien. Et ta solution pour sauver les deux entités, c'est de mettre dehors la patronne de la seule entité qui va bien financièrement. Explique-moi ça, mais je comprends pas. » Alors, elle me dit, vu comme ça, il dit, t'as raison. Je dis, pourquoi tu me laisses pas partir avec ça? Encore une fois, c'était une question de créativité, de penser à quelque chose qui était complètement pas dans les normes. Je venais pas du... Tu sais, j'ai dit, pourquoi tu ne me laisses pas partir avec cette entité corporative-là? Tout simplement, puis on va continuer de travailler ensemble comme partenaire. Là, je lui demandais d'être partenaire à l'actionnariat. Mais j'ai dit, moi, au lieu d'entrer dans une grosse, tu sais, guerre de pouvoir à l'intérieur du groupe, laisse-moi partir avec ma portion. Et il m'a dit, écoute, kid, à l'époque, il m'appelait kid. Il dit, écoute, kid, fais-moi des projections, puis si ça fonctionne, c'est correct. Et je suis passée d'employé congédié à partenaire dans une PME avec Donald et Donald en 48 heures.
Deuxième question, est-ce qu'il y a une technique ou un outil qui t'a particulièrement fait progresser dans la vie?
Ben, plusieurs choses, mais je dirais la méditation, c'est sûr. Mmh. Donc, puis j'ai une technique que je pratique et je trouve que ça a beaucoup amélioré à la fois mon quotidien, ma capacité d'écoute, mon intuition. Vraiment, c'est un outil puissant qui est disponible pour tous. Hein?
Troisième question, quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
La connaissance de soi. Je pense que de connaître très bien ses forces, mais aussi de connaître ses faiblesses, et de les accepter. Donc, pas essayer de les changer, là, de les accepter. Ça nous permet de naviguer dans la gestion avec beaucoup plus d'aisance. Donc, de prendre le temps de bien se connaître dans le côté sombre comme dans la lumière, c'est un exercice que tous les grands leaders, je pense, font déjà. Puis si vous ne l'avez pas encore fait, prenez le temps de le faire. Ouais. Moi, ça m'a pris du temps avant de prendre le temps de le faire, puis j'aurais dû le faire plus tôt.
Et est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller à la lecture?
Mais le mien, c'est sûr.
Ah oui, hors dehors de tiens, parce que tous les auteurs, j'interviewe beaucoup d'auteurs, et tous les auteurs me la font.
Oui, c'est clair, mais ça a vraiment changé ma vie complète de réaliser que le féminin, particulièrement en ce moment, il ne faut pas se priver de cette information-là, qu'on soit ou une femme, pour pouvoir miser sur le féminin. Je pense que déjà ça, c'est extraordinaire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Un livre qui m'a beaucoup aidée aussi comme gestionnaire, celui-là aussi, j'aurais aimé ça le lire avant. C'est fou, c'est un livre de dating, c'est un livre de relations homme-femme, mais moi, au niveau de ma façon, tu sais, je vous ai dit que je connaissais mal les hommes. Donc, je reconnaissais mal leur force et leur faiblesse. Quand j'ai lu ce livre-là, j'ai pu comprendre plein de choses qui ont facilité ma relation avec mes collègues. Là, on ne maîtrise pas tout, vraiment pas. Moi, je suis une fille qui me pose tout le temps des questions. Donc, c'est le livre de Steve Harvey. En français, en anglais, ça s'appelle « Act like a lady, think like a man ». Donc, « Penser comme un homme, agir comme une femme ». J'ai adoré ce livre-là. Ça m'a fait comprendre des choses qui m'ont été très utiles en affaires.
C'est marrant parce qu'il m'a été déjà conseillé. Et du coup, je suis tombée sur un autre livre à lui, parce qu'il en a fait un autre plus business.
Ouais.
Mais ok, c'est la première fois que dans le podcast, on nous cite ce livre, donc c'est intéressant. Et on va finir avec une citation qui t'inspire.
J'aime bien dire que la vision féminine est une ressource naturelle qui n'a pas encore été exploitée à son plein potentiel. Ça, je veux que toutes les femmes le sachent. Mais si je veux en citer une autre qui m'inspire tous les jours, c'est « Be the change you want to see in the world ». C'est incarner le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc, si on veut changer les choses, il faut commencer par soi-même.
Et ça, c'est Gandhi, je crois.
C'est Gandhi, oui. Si on veut devenir une meilleure version de soi, c'est déjà contribuer à la paix dans le monde.
Merci beaucoup, Janie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Quels sont tes rêves? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir en ce moment?
J'ai fait un programme en ligne maintenant pour que mon message puisse être transmis en dehors des frontières. Je me suis promenée beaucoup dans le Québec, mais je ne peux pas rencontrer toutes les femmes une à la fois. Mais c'est tellement une bonne nouvelle que le féminin soit aussi en demande, aussi prêt à éclore, là. Je voudrais que le plus grand nombre de femmes qui le sachent. Alors, évidemment, je veux que ça traverse les frontières. Je veux pouvoir aider des femmes dans le plus grand nombre de pays possible. C'est sûr que. Donc, en faisant les choses de façon virtuelle, ça me permet de le faire d'une certaine façon. Mais maintenant, je suis prête à me promener, à répondre à l'appel. Tant que je sens que je sers quelque chose de plus grand que moi, et ça, ça m'enchante. Donc, voilà, je suis disponible pour vous.
Merci beaucoup, Janie. Je te souhaite beaucoup de voyages dans ce monde de la féminitude.
Oui.
Et merci de nous avoir donné ton temps et d'avoir traversé l'océan par les ondes.
Merci infiniment pour l'invitation, c'est un grand privilège. Merci beaucoup.
Ces dernières semaines, j'ai vécu la plus belle expérience de sororité de ma vie. J'ai ici aussi, dans le coin, ça me fait penser de vous dire que je connais beaucoup de femmes qui m'impressionnent, de femmes formidables, je ne sais pas comment dire, créatives, intelligentes, drôles, actives. Voilà. Et d'ailleurs, certaines d'entre elles ont organisé ou avait envie de faire un talentoscope. Donc le talentoscope, c'est un jeu que j'ai créé pour, en coopération avec d'autres, identifier nos modes de fonctionnement. Donc il y aura un talentoscope le 17 janvier à Séné, près de Vannes, dans le Morbihan, pour ceux que ça pourrait intéresser. Ce sera en assez petit comité, je pense qu'il y aura une trentaine de personnes. Voilà. Sur ce, voilà, c'est fini. C'est bien énigmatique encore, mais donc il va y avoir, je ne sais pas si c'est une rupture ou un changement, en tout cas un bouleversement est arrivé dans ma vie et je ne peux plus faire les choses pareilles. Mais je vous en parle dans un message qui va suivre, donc sur le canal sur lequel vous êtes abonné, que ce soit iTunes, SoundCloud, où vous pouvez le retrouver aussi sur mon blog. Je vous remercie. D'ailleurs, j'en profite. Je voulais remercier les personnes qui ont noté le podcast Moodstep sur iTunes. Et incroyable, il y a eu plusieurs commentaires en un mois, ce qui est sur la chaîne iTunes de Moodstep très rare. Donc, je voulais remercier Tierpa, qui écoute toutes les semaines. Et puis Dolé Olé, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, un petit pas pour Moodstep, un grand pas pour l'humanité. Merci pour ton commentaire qui me va vraiment droit au cœur. Et puis Les Arnauds, excellent podcast pour une approche humaine de l'entreprise. Bon, j'ai une petite forme de culpabilité parce que j'ai reçu aussi beaucoup de messages via LinkedIn, par mail. Me disant à quel point c'était chouette qu'on pouvait apprendre des choses avec le podcast. Je vous en remercie. Donc la culpabilité vient du fait que je change tout, je change drastiquement je pense le sujet, la ligne éditoriale de ce podcast, et donc je suis désolée un peu de vous lâcher sur ce sujet qui est important et très intéressant, mais j'ai J'ai d'autres appétences que j'ai besoin de nourrir. Donc, merci pour vos notations, merci pour vos commentaires. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et pour ceux que ça intéresse, on se retrouve tout de suite dans un nouveau message qui doit suivre sur votre fil.